En 1975, il s'agit du deuxième NJP. Le premier étant celui de 73. Tout comme pour le premier, le deuxième festival NJP est une organisation qui est placée sous la houlette, la tutelle et la responsabilité financière de la ville de Nancy. Il n'existe encore pas d'association organisatrice. C'est organisé par le comité des fêtes de la ville de Nancy, qui est une émanation directe de la municipalité d'alors, et dont le président du comité des fêtes, donc par le fait même le président du festival, c'est l'adjoint aux fêtes et festivités de la ville, qui était un patron de brasserie qui s'appelait Yvan Huc. Il était le président du premier et du deuxième. Le maire, à l'époque, c'était M. Marcel Martin. Étant donné qu'il n'avait pas de compétences particulières en matière musicale, que s'agisse de jazz ou d'autres musiques d'ailleurs, il m'a demandé, après que je l'ai contacté, que j'ai pris l'initiative de le contacter, il m'a fait confiance et m'a attribué le titre de délégué général. Donc tout ce que j'ai fait, c'était par délégation de lui-même, de cet adjoint. Et il m'a donné un certain nombre de pouvoirs, en particulier de constituer autour de moi un groupe de connaisseurs, d'amis personnels et de gens ayant des disponibilités et le goût pour faire fonctionner toute cette affaire-là. À remarquer que déjà, pour ces deux premiers festivals, on trouve comme personne importante dans l'organisation, chargée des relations extérieures, des contacts presse, des relations publiques, Claude Jean-Antoine Di Tito, qui se trouve cette année être le président. Donc on voit que c'est un, tout comme moi, une personne qui était déjà sur le terrain dans cette époque lointaine. A remarqué aussi, chose étonnante, que Tito a le même âge que moi, finalement, nous avons 71 ans tous les deux. Donc je pense que c'est le festival de musique actuel, on peut dire, qui a le président le plus âgé, ce qui, je ne dis absolument pas sous un aspect caustique ou pas du tout, ça prouve simplement qu'il y a quand même une continuité souhaitable. Il serait souhaitable que des personnes de tous âges, y compris des vieux comme nous, n'aient pas décroché et continué à s'occuper de musique actuelle et soient restées toujours un peu assez frais dans leur goût musicaux. Alors, le concert du 11 octobre a été signé par moi-même, par délégation du président Huc, après des négociations difficiles qui se sont faites à l'époque où l'Internet n'existait pas, où le téléphone était très cher, par échange de courriers, puis de télégrammes où il y avait finalement, je trouvais toujours que c'était trop cher, mais on n'avait pas d'argent. Alors il m'a fini par me dire un truc qui était à prendre ou à laisser, avec une deadline, comme on dit dans le métier. Voilà. Si je ne me pliais pas à ces dernières propositions, l'affaire était perdue. Alors je vois Huc et il m'autorise à signer, puisqu'il ne connaissait que moi, puis Huc ne parlait pas bien du tout l'anglais. Alors on a fini par acheter un concert qui était cher. Il était cher, mais il nous amenait un plateau de stars, il faut bien le dire. C'était pas autre chose que ce qui était connu par tous les milieux du jazz, comme l'initiale JATP, qui veulent dire Jazz at the Philharmonic, le Philharmonic en question étant le Philharmonic Auditorium de Los Angeles, qui existe toujours, que j'ai vu, qui reçoit toujours des concerts, y compris de jazz, et où s'était déroulée la première grande manifestation de Norman Granz en tant qu'impresario, ce qui remonte, si je ne me trompe pas, à 1945. Donc le tout premier JATP de 45, on est en 75, ça fait déjà pour lui 30 ans. Ça correspond déjà à peut-être disparant à son 400e concert. Hein. Bon, c'est le plus grand impresario du monde. moi-même ainsi que Tito et les 7-8 copains, on est des petits mecs qui n'avions pas fait grand-chose, dont il ignorait même l'existence. Il a voulu une garantie bancaire la ville de Nancy a fournie, c'est-à-dire c'est du papier à la signature d'une banque. Il n'a pas demandé du cash d'avance, il a demandé un papier bancaire. Si en cas de pétard quelconque, on devait le fric, point final. Alors, il est venu, et on est tombé sur un problème auquel personne n'avait pensé, même pas lui, c'est qu'il n'imaginait pas qu'on puisse présenter le JATP dans une ville sans aéroport. Encore maintenant, d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, si on dit un avion va venir de Londres et atterrir à Louvigny, on dira non, à Luxembourg, à Saint-Bruc, mais pas à Louvigny. Bon, parlons pas des
transatlantiques. Ou à Paris plus TGV.
Oui. Parlons pas des vols transatlantiques où lui, il arrivait habituellement, il prenait à Los Angeles, il y avait une étape à New York, et puis après, c'était Londres, c'était Francfort. Alors, il me dit, et à quelle heure nous atterrissons? Je lui dis ça, puis je lui dis attention. Je lui dis, on a dépensé pas mal de sous en échange de télégrammes. Hein. Avec les décalages horaires, c'était pas marrant, parce que des fois, je devais me lever la nuit, parce qu'il fallait que je porte pour à l'ouverture de la poste. La poste ouvre à 8h, à 8h moins 10, j'étais déjà là pour m'assurer que le télégramme partait. Bref. Ils acceptent de caler ce truc-là entre des concerts à Paris et des concerts en Allemagne. Alors, il faut transporter les gens. Monsieur Grans et Monsieur Peterson, ainsi que Madame Peterson, c'était la seule femme de musicien. Alors, lui, comme tu le sais, né à Toronto, c'est un Canadien, Peterson. Il est bien bilingue et sa femme était une femme francophone qui est bien bilingue aussi. Et qu'il parle comme Diane Tell et tous les artistes canadiennes avec le même accent. Alors, il y avait Grants qui est mort maintenant, on peut peut-être le dire, qui était homosexuel et qui n'avait pas son petit ami du moment avec lui. Il y avait le chauffeur, il y avait une limousine, et dedans, il y avait Oscar et Madame. Et il avait expliqué aux autres que c'était que comme il y avait Madame, on ne la mettait pas dans le bus qui était à l'ouest, ils sont venus en bus. Alors, il y en a qui râlaient un peu parce que ça faisait 20 ans que, je sais pas, mais que c'est tel ou Gillespie prenait plus le bus, c'était ou limousine privée, ou hélicoptère, ou avion. Alors, on les a foutus dans le bus, mais alors pour se rattraper, on a mis tout le monde au Grand Hôtel. C'était le plus cher, le plus prestigieux, la place dont ils n'avaient jamais entendu parler. Le nom de Stanislas évoquait strictement rien. Et ils se sont persuadés, enfin je les ai parlé après, ils disaient toujours Stanley, ce qui veut dire Stanislas en anglais d'ailleurs, Stanley. Et bon, alors en plus de ça, c'était impeccable parce qu'ils pouvaient prendre l'air et faire 300 mètres pour aller jusqu'à pied. Donc c'était bien. Alors ils étaient contents de leur logement. Suite pour les gens, deux musiciens par chambre.
On peut juste préciser qu'à l'époque, ça se déroulait déjà au chapiteau.
Ah oui, c'était pas le même chapiteau,
oui,
mais c'était exactement le même endroit. Il faut dire que les aménagements étaient très sommaires et que quand Grans a vu dans quel placard on avait prévu pour 5 jours plus tard faire déshabiller, maquiller et la Fitzgerald, qui était le gagne-pain essentiel de c'était la plus chère et la plus demandée. Et il a tout de suite dit au gars qui faisait le backstage, dont Gilles Mutel, qui était le chef des sonorisateurs à l'époque, je ne pense pas qu'elle va venir dans votre boutique pour un nom comme ça, parce que les sanitaires ne correspondaient pas à la Fitzgerald. C'est juste, on était des débutants dans l'organisation, on ne ferait plus ce genre d'erreur maintenant, ni moi, ni Tito, ni personne. Alors, Mutel, les sonorisateurs de l'époque, étaient des amateurs, s'inquiètent de la balance. Bon, on fait la balance pendant le premier morceau. Bon, et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Il y avait que comme plateau. Ils assuraient tout. Ils étaient nombreux. Ils faisaient les deux parties. Bon. Eh ben, on voit la ville, on regarde la place depuis les fenêtres du Grand Hôtel. Il faisait beau. Il y avait une ambiance folle dans Nancy, il y avait des musicos un peu partout. Et je me souviens que Peterson tombe devant un musicien que je ne connaissais pas, devant le foie.
Et, donc, Place Stanislas,
il avait traversé la place. Et je ne sais plus le type, je voudrais me souvenir de son nom, mais c'est très drôle. Il dit, oh mais c'est toi, Bill, c'est toi. Mais ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Mais on m'avait dit que tu étais fou et enfermé dans un asile. Alors l'autre répond imperturbable, fou c'est bien possible, mais enfermé pas encore. Tout le monde a pouffé de rire, c'était magnifique comme présence d'esprit, de réplique du type. Bon. Alors ils ne voulaient pas aller faire la balance, par contre ils voulaient bien bouffer. Alors ils avaient du pognon, ils se répartissent dans les endroits en fonction de leurs affinités, trois types à droite, deux types à gauche, ils avaient les horaires, c'est des professionnels, ils n'avaient aucune inquiétude. Et le type qui m'a causé de gravissimes problèmes ce soir-là, c'était le seul sur lequel je me disais, j'ai aucune inquiétude à avoir, c'est Norman Granz. Parce que Norman Granz, à la limite, s'il n'est pas là pendant les premiers quarts d'heure du concert, c'est pas grave, ils joueront à l'heure. Et puis, penses-tu, Monsieur Granz était un homme de goût, un homme d'art, un collectionneur de tableaux abstraits, fanat de galeries d'art et fanat aussi de haute gastronomie. Il se jette dans le... Je ne sais pas si c'était le mot un gourmand ou le machin, l'équivalent, écrire en anglais, parce qu'il ne parlait pas un mot français. Et alors, il voit que c'était le capucin gourmand. Alors, il ne demande rien à personne, il ne dit rien à personne. Il faut le temps qu'il y a plus un moment, il se présente pas, là il se fout de l'horaire, il commande un repas avec 5 plats et tout, et il commence à ce que les gens du Capucin Gourmand m'ont dit. Et alors, pendant Granz se tapait la cloche, au frais des musiciens certainement, enfin, au frais de la tournée, les autres étaient pile poil à l'heure et même à l'avance, et puis pressés de commencer, puisque plus tôt on commence, plus tôt on a fini et plus tôt on va se coucher.
Alors, pas de Norman Granz.
Bah, tu sais, c'est la vie des musiciens. Bon. Je suis peut-être un peu long, mais
non.
Tu coupes. Hein.
Il y a 3 heures là-dessus.
Et alors, Mutel parlait en anglais, mais pas finalement, puisque quand même le délégué général dit, Xavier, fais-les commencer, c'est plein, là, il y a des remous dans la salle, il faut démarrer. Alors moi je dis, c'était Peterson qui faisait commencer. Il dit, Oscar, on y... en plus il parlait français, tu y vas, puis on démarre. Ouh, il faut que ce soit Norman qui me dise. Si Norman ne me dit pas de commencer, je commence pas, j'ai un contrat avec lui. Si vous fâchez avec lui, il n'y a pas de concert. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez l'argent et tout ? Pour l'instant, moi, j'attends qu'il me dise de commencer. Rocker, où il est ? J'ai dit, on vient de m'informer, il doit être en train de finir son repas au Capucin Gourmand. J'y vais. Et alors, il y a eu un incident qui m'a foutu en l'air le concert de 5 jours après avec Bézy et la Fitzgerald. C'est que Huck, avant d'être restaurateur et connu et adjoint, était un tenancier de balles, des balles montées, tu sais, des balles de campagne, et il avait l'habitude de faire marcher les orchestres musettes, je ne sais qui, à la baguette là-dedans. Et puis il avait été présenté des balles chez les Américains, et il avait pris 7-8 mots d'argot, de slang. Et il arrive au Capucin. Il se met à gueuler. Norman Granz, le gars, dit c'est moi. Et il commence à gueuler. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type ? Alors après, Huck lui dit, Corny Guy. Corny Guy, ça veut dire plouc. Corn, c'est le gars qui vit dans une ferme qui jette du grain au
maïs.
Alors il dit, ça veut dire pecno, en fait. Il m'a traité de pecno. Alors après, il vient me dire, il m'a traité de pecno, il va me le payer. Je dis, écoute, il a fréquenté que des soldats, des prostituées, il ne sait pas bien l'anglais, il t'a dit ça sans savoir ce qu'il disait, tout ça. Bon, Xavier, ils vont jouer, mais pour baiser, je ne te promets rien. Alors il a fait jouer, c'est parti un quart d'heure après, ils ont fait la balance sur le premier morceau, merveilleux, c'est peut-être le concert le mieux sonorisé, parce qu'ils ont un tel métier, ils se sont eux-mêmes réglés leur intensité et tout, grâce au retour, ils se sont fait, à la fin du premier morceau, il n'y a plus rien eu à toucher.
C'est quelques minutes en fait.
Ah ben le premier morceau, c'était, au fur et à mesure qu'arrivait un soliste, eh ben, quelques instants pour balancer l'arrivée d'une trompette, l'arrivée d'un sax, avec la rythmique. Et puis, tu voyais le métier des mecs, ils s'éloignaient, ils se rapprochaient, ils avaient le son général avec le retour. Et les types aux manettes, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais vous ne faites rien, ça va très bien, vous ne faites rien. Alors après, les orchestres avant, les orchestres des pays de l'Est, qui avaient des matériels de l'époque soviétique, à l'époque où je ne sais quoi, c'était un bordel pour... Le concert était à peu près bien sonorisé au dernier morceau. Alors voilà. Alors le concert se déroule, et j'étais extrêmement perturbé, parce que j'ai tout de suite dit à Hugues, écoute, ça va pas du tout, il faut que tu leur donnes du cash. Alors il avait du cash, il avait prévu du cash en dollars, heureusement. Il n'y avait pas de contrôle d'échange. Enfin, il y avait un contrôle d'échange à l'époque, mais ça c'est un truc qu'il savait faire, parce que Hugues était plus un homme de faire des affaires qu'un homme, qu'un artiste. Alors il a dit, je leur donne la moitié en cash ce soir, et puis la banque assurera son engagement, et le reste sera sur sa banque à Los Angeles, comme c'est convenu sur le contrat, le temps de faire le transfert dans 3 jours. Le concert était complet, le festival était complet. Et alors le problème, c'est que tout était complet, y compris le concert du Big Band de Basie, avec en soliste parmi Basie, Fitzgerald, et que après, je les raccompagne au bus le matin. Et alors là, j'avais dû me lever alors que je m'étais couché à peut-être 3h30. À 8h15, j'étais à l'hôtel pour leur souhaiter bonne route et tout ça, parce que moi, je sais qu'il faut toujours essayer, et peut-être essayer d'arranger le coup. Et alors, Clark Terry, que je connaissais personnellement, parce que je l'avais vu à Metz auparavant, et je l'avais fait en quartette, et je l'avais déjà engagé dans des petites choses, il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, Grant? Il m'a dit, ça m'étonnerait que nous soyons là samedi soir avec Basie et elle. Je lui ai dit, moi aussi ça m'étonnerait beaucoup, et je peux même te dire que jamais Ella mettra les pieds dans votre... Il n'y a même pas de chiottes correctes. Voilà ce qu'il m'a dit. Hein. Alors tu penses que c'était quand même la fédérale. Les chiottes correctes, t'as peut-être été aux États-Unis. Tu sais quand... Non mais, ils sont pointilleux sur l'hygiène, mais c'est dingue. Les dessus de WC sont remplacés à chaque fois. Il y a une femme, en général une pauvresse, une mexicaine ou tout, qui vient passer la balayette tous les quarts d'heure. Enfin, alors ils sont extrêmement pointilleux, et surtout quand c'est une vedette comme elle a, c'est comme si tu avais dit la calasse, tu vois. Tu mets pas la calasse dans une baraque faite de 4 planches à pisser dans un seau. Hein. En gros, c'était ça. Bon. Alors, je me suis dit, ça, la bêtise là, je ne la ferai pas. Effectivement, je ne l'ai plus refaite, parce que j'ai souvent eu, surtout quand j'avais des vedettes femmes, j'ai eu des grandes vedettes hommes qui sortaient et qui pissaient contre un arbre à la pépinière. Mais les vedettes femmes, après, je me disais, attention, les dames, elles ne vont pas pisser ses culottes derrière les coches des singes à la pépinière.
Hein. Savoir la conclusion de cette histoire.
Alors, résultat, je me fais assassiner, parce que c'était grâce à mon incurie et à mon impéritie que le concert n'avait pas eu lieu, que certains avaient royalement et par amitié pour le festival fait cadeau de leur argent. Mais d'autres avaient demandé à être remboursés. Alors eux, ils payaient bien, mais rembourser de l'argent, c'était lui arracher le cœur. Alors là, voilà. Alors j'ai été sur des détails d'organisation.
C'est important, parce que
les gens connaissent pas.
Ça donne une idée de l'esprit quand même.
Les gens connaissent pas ce genre de choses. Il faut voir que la machine ultra rodée n'était encore pas bien au point. C'était que le deuxième festival, qui était une biennale à l'époque, c'est-à-dire que la moitié des types qui avaient fait le premier et qui donc avaient une vague idée de ce que c'était d'organiser un festival, ils n'étaient plus là. Et personne n'était payé. Il n'y avait pas de structure permanente. C'était associatif, purement. Je n'avais pas gagné un franc. Une fois, j'ai demandé une paire de pompes. Parce que j'avais tellement fait de magasins pour mettre les affiches, je me suis fait dire, écoutez, il faut m'acheter une paire de pompes parce que maintenant on voit le jour à travers mes semaines. Alors, ils vont voter une paire de pompes. Alors, quand je vois maintenant les structures culturelles avec 6 payés, 8, 10, je ne peux dire pas ça pour NJP, mais c'est pareil pour tout, partout. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Les gens ne donnent plus, si tu veux, bénévolement de leur temps, de leur santé et tout. Parce qu'il y a un manque de sommeil. Moi, je tenais beaucoup en picolant. Je peux pas dire que je bois de l'alcool maintenant, mais à l'époque, pour tenir le coup, c'était beaucoup Mirabelle, Cognac et tout comme ça. C'était pas admis. Hein. Parce que des fois, tu avais besoin d'un coup de fouet. Et je suis content parce que j'ai un bon foie et je n'ai pas de séquelles. Mais combien de types qui faisaient des concerts de rock dans ces années-là, des concerts de jazz et tout, eux, pour se donner le coup de fouet, le peps, c'était les trous de nez ou la picouse. Alors là, moi, je suis toujours resté en dehors, mais j'ai des excuses, il faut rester réveillé. Hein. Quand tu as des obligations de résultat.
Des engagements financiers.
Eh oui, et comment voilà. Alors maintenant, je vais te dire juste un petit mot, parce que je n'ai pas du tout parlé de musique. C'est un concert que j'ai écouté par Bribe, qui m'a paru être le 60e concert complètement mécanisé avec une theme list qui ne bougeait pas. Hein. Les gens auraient pu demander un bis, refaire un autre truc ou en fonction de l'ambiance et tout. Non, c'était les concerts JATP donnaient l'impression quelquefois d'être un grand bordel parce qu'il n'y avait pas d'arrangement, il était pas fainéant, personne ne voulait en faire. Hein. Pourquoi ils se sont emmerdés? Il disait, bien sûr que je peux le faire, mais pourquoi c'est pas Oscar qui l'a fait ou pourquoi c'est pas Clark qui l'a fait? En plus de ça, il y avait ce côté répétitif et mécanique où les impros étaient faites pour donner l'impression que c'était des impros, alors qu'ils les savaient bien évidemment par cœur, vu qu'ils n'en changeaient pas une note depuis
la carte. Les chorus bien relevés.
Bien sûr, alors c'était bien, c'était bon, puisque ça avait été retenu. Mais c'était exactement comme si ça avait été écrit sur une
carte. En même temps, c'était un peu à géométrie variable, d'après ce que j'ai entendu.
Mais c'était tous les soirs.
Un jour, il y avait après il était rejoint par
mais c'était tous les soirs pareil. Les gens arrivaient. C'était une mécanique, le gars était derrière. Il attendait à tel morceau, il rentrait. Des fois, il rentrait au bout de deux chorus et pas de trois. Tout ça. Et c'était un peu déshumanisé parce que c'était une opération où l'aspect esthétique était moins importante que l'aspect de rentrer de l'argent.
Parce qu'en même temps, c'était quand même un all-star. En fait.
C'était un all-star, mais ça avait pour but d'asseoir encore davantage leur popularité, de booster pour un an ou davantage leur vente de disques à tous. L'aspect financier commercial est très important chez les Américains. C'est pas des Rimbaud et des Verlaine qui vivent. Ça a été à un moment donné. Alors, à certains moments, ils avaient des contests, je suis certain, dans une boîte de New York ou de Chicago. Où ils étaient avec 40 types, des connaisseurs, et ils se tiraient des bourres, ils se faisaient des contests où le niveau musical, l'impro, l'imagination était supérieur à ce qu'ils produisaient devant 5000 types à Berlin, tout simplement parce qu'ils faisaient la même chose que la veille et la même chose qu'ils feraient le lendemain. Et puis aussi, toutes ces heures et ces heures de manque de sommeil, de le bus, l'avion, tout ça, et puis après ça les fait chier quand on leur dit allez, la maison de disque, Barclay vous invite, il faut rester jusqu'à telle heure, signer des interviews, répondre à des questions de journalistes qui ne savent même pas qui vous êtes et qui s'en foutent, qui viennent faire leur métier. Alors il y a un aspect pour eux qui est un peu galère, hein, faut bien le dire. Alors Par contre, la contrepartie, c'est que ça rapporte du fric. Il y en a qui se bourrent les poches et qui, après, ils vont vivre avec 7-8 engagements dans l'année aux États-Unis parce qu'ils se sont fait du blé pendant tout l'été. Parce que quand ils font les festivals, ça démarre en mai et puis ça termine en novembre. Hein. Il faut avoir la liste. Il y en a 60 des festivals de jazz en Europe. Alors, et en plus, c'était une époque où le jazz était largement en perte de vitesse aux États-Unis. C'était pas encore Michael Jackson qui allait arriver quelques années après, ouais, mais c'était le
77, hein.
Seulement c'est 75, c'est le grand moment de la soul music. C'est les vedettes, elles s'appellent Aretha Franklin, elles s'appellent James Brown, elles s'appellent Otis Redding, avant qu'il se tue. Voilà. Alors, il est certain que... Moi, je voyais des pianistes, qui étaient des pianistes d'accompagnement, ils demandaient pour un concert à la salle Poirel devant 500-600 personnes, énormément plus d'argent qu'ils auraient demandé aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y en a qui faisaient du bord. Voilà. Il est arrivé à un certain moment à Errol Garner de jouer du bord. Des types à moitié sourds venaient leur demander de jouer Ma Petite Folie ou je ne sais pas quelle connerie. Il fallait le faire, ça faisait partie du boulot. Hein. Alors il venait et c'était pas pour faire de l'esthétique. Cela dit, Peterson est incapable de mal jouer. Il faudrait vraiment qu'il soit très sourd et il ne buvait pas. Alors non, on n'a pas d'exemple de Peterson. On n'a pas d'exemple de Peterson jouant mal. C'était Belson, si je me souviens Belson, avec ses deux grosses caisses. C'est la première fois que moi-même et beaucoup voyons une double grosse caisse. Après, on en a vu d'autres qui avaient deux grosses caisses. Chez Ellington, il y en avait un, Jean Jones, je crois.
Mais ça a été d'ailleurs utilisé pas mal dans le rock.
Oui. Alors, on regardait comment ils s'en servaient, parce qu'il n'a pas trois pieds. Il y avait quand même une Charleston. Hein. Alors, c'est que, bon, par moment, son pied quittait la Charleston et il mettait un pied sur chacune des deux pédales. Il faisait des roulements de grosses caisses. Voilà. C'est pour faire des roulements. Il fait des roulements, donc il faut les deux pieds. Donc les deux pieds et deux caisses. À part ça, et puis alors des fois il y a des ponctuations particulières comme boum boum boum. Alors elles étaient réglées avec un son légèrement différent. Une grosse caisse a tout petit peu plus basse encore que l'autre, si bien que là, ça leur faisait encore une note de plus dans la descente. Claire, tom basse, tom, deuxième tom. Première grosse caisse, deuxième grosse caisse. Donc ça pouvait faire. Ça veut dire donc six fûts au lieu de ça. Hein. Okay. Alors, Belson, c'est un phénomène, il est ambidextre. Il n'y a pas tellement, il y en a quelques-uns des ambidextres. C'est sans doute le. Alors, c'est bien sûr la première fois que le JFTP venait à Nancy. C'était la deuxième fois que Peterson venait à Nancy, puisqu'il était venu au premier festival. Dans un truc beaucoup plus musical et beaucoup plus intéressant, c'était son trio avec Joe Pass et Ersten Peterson.
Oui.
Alors, c'était moi qui. C'était le premier festival, le premier festival, avec les copains en question. Alors, là, véritablement, la présence de Joe Pass et puis de Franz Henning et Ersten Peterson, qui est un truc merveilleux, et puis en plus de ça, sans batterie, avec tout ça. Toute cette musicalité, ça avait été mieux que les exercices un peu mécaniques qu'il a fait. Cela dit, il y avait un contest de trois trompettes, excusez du peu, Clark Terry, Dixie et Roy Eldridge. Hein. C'est la seule tournée à ma connaissance, alors qu'il y a eu des enregistrements, mais à ma connaissance, c'est la seule tournée européenne où la même année ils avaient été en Antibes et tout ça, on les a vus tous les trois. C'est-à-dire, on peut dire il y a trois générations, puisque on sait très bien que Eldridge faisait le pont en train de prendre Clark Terry faisait le pont entre Eldridge et Dizzy, et Dizzy arrivait après, alors que Clark Terry, qui avait 50 plus, avait montré certains doigtés à Dizzy. Ils se connaissaient depuis très longtemps. Alors, ce serait faux de dire que Clark Terry a été le professeur de Dédé. Il n'avait pas besoin de professeur, Dédé, il avait des dons extraordinaires. Et puis en plus de ça, il s'était créé une technique à lui, donc le professeur Hugo Raymond. En revanche, pour un trompettiste, certains trucs de respiration et certains trucs de doigté qui sont souvent gardés jalousement par les trompettistes. D'ailleurs, il y en avait même un qui se mettait un truc sur le pourquoi on voit pas se travailler ses doigts. Là, il se mettait un mouchoir. Quand dès qu'il était filmé, il cachait ses doigts. C'est un truc de vieux musicien. Mais là, Clark Terry avait, par sympathie, montré à Dizzy, qui avait 5 ans de moins, son certain truc. Et alors, tous les trois sur une scène, il y a eu des chaises qui étaient répétés, qui n'étaient pas des toits improvisés, mais qui étaient, ils avaient retenu de les faire parce qu'il y avait sur les intervalles, sur la vitesse.
C'est très vivant.
Voilà. Et puis alors, tu vois, ils ont fait un truc qu'on va rencontrer, c'est de toujours. Tu fais la musique, c'est ce que c'est quand on fait 8-8 sur un thème de 16 mesures, 8 mesures l'un, 8 mesures l'autre, c'est un dialogue entre deux musiciens. L'un commence, le chorus, il fait les 8 premières, après.
Le 4-4.
Bah, après, alors ils font du 8-8. Après, ils font du 4-4, et après, ils font du 2-2. Tu vois, carrément.
Alors, il faut répondre.
Non, mais si sur un tempo médium, ça va bien. Mais sur un tempo rapide, deux mesures. L'autre, il reprend deux mesures. C'est la moindre des choses, quoi, d'être à l'écoute. Mais disons qu'il faut que le cerveau il travaille vite, parce que là, c'est le cerveau qui doit bosser beaucoup. Alors, ils ont. Les amateurs de trompette ont pris une leçon de trompette. Il y en a qui se sont dit, sans partir, ils ont j'arrête l'instrument. Je ferai jamais. Bon, c'est une rigolade. Ici, ils se sont remis aussitôt. Il y avait les gars de la Naja et tout ça. Pensez pas. Ça peut monter si haut, ça peut jouer si vite. Et il fait des doubles notes et il fait les demi-pistons qui avaient été créés par Rick Stewart, les demi-pistons. Mais Clark Terry, c'est un as des demi-pistons. Il fait les. Tu as l'impression qu'il a une sourdine pour certaines notes, une sourdine en feutre ou un chapeau en feutre. Il n'a rien du tout, il est ouvert. C'est uniquement un truc de demi-piston et de lèvres, coordonné avec les doigts. Et puis, alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, il y avait, c'était, je me souviens, Zoot Sims.
Il y avait un deuxième saxophoniste.
Et alors, qui pouvait. Eh bien, c'était pas Eddie Longjo Davis. Ah, me semble-t-il, hein. Bah pour l'amateur de musique, il voyait bien, si tu veux, le style blanc et le style noir. Eddie Davis, c'était un rentre-dedans. Il jouait hardi petit. Voilà, il attaquait très très en avant du temps. Il a un gros vibrato, un gros son, un drive formidable. Quoi. Et puis Zoot Sims, il avait une grosse influence de Cools, notamment de Stan Getz. Et un peu de Mulligan aussi, sauf que c'est pas le même instrument, mais c'est un peu la même esthétique. Et alors, ça faisait Monsieur Excité et Monsieur Calme. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors l'autre, ils essayaient de l'exciter, et l'autre, on se calme. Alors ils faisaient plein de notes, les autres, ils en faisaient deux fois moins, mais des notes avec un poids, avec un contenu, et puis une certaine. Enfin, c'est la famille Lester. Et là, contre la famille Hawkins, tu vois, en gros. Mais pousser les deux extrêmes pour que même l'auditeur le plus bébête, il arrive à comprendre que c'était pas la peine qu'ils fassent chacun la même musique. L'intérêt, c'était de voir la différence de style entre l'un et l'autre. C'est ça l'intérêt.
Il y avait également Ray Brown.
Toujours un PK.
Et Jackson.
Bill Jackson qui n'a pas fait grand chose.
Mais
est-ce qu'il y avait un guitariste? Je crois pas.
Joe Pass.
Ah oui, c'est Joe Pass. Oh punaise, il y avait Joe Pass. Tu vois, je m'en souviens plus, c'est vieux. Non, bah écoute.
Johnny O'Cameron, j'ai vu les photos.
Oui. Mais c'était sûr que ce n'est pas les photos de 73.
Non, c'est les photos de 75.
Ouais. Joe Pass. Alors. J'ai essayé de leur courir derrière pour mettre de l'huile dans les rouages, éventuellement payer des tournées aux mecs, même si Grant se tirait la gueule, comme j'étais assez bien avec Peterson, que je connaissais de 2 ans avant, et puis Clark Terry, qu'ils interviennent en disant c'est un jeune festival, il ne faut pas les descendre, c'est le premier qu'ils font et tout. Tout ça a été impossible. Grant n'a pas voulu me recevoir. il avait une loge, bien sûr. Et à la fin du concert, j'ai été. C'est la seule fois qu'un musicien n'en a pas reçu. Ray Charles, il y avait un gorille de 130 kilos, tout noir et qui faisait peur à tout le monde. J'ai gueulé Xavier, alors ils ne comprenaient pas ce que je veux dire. Alors, comme ils ont beaucoup de latinos, j'ai dit Javier, Javier. Alors là, il a dit ah, fais rentrer. Il a compris que c'était moi. Mais tous les autres, c'était normal, j'étais le directeur musical. Mais là, grâce, il n'a pas voulu me voir. Il était fort que les papiers étaient transmis, étaient signés, ils seraient payés. Et alors, après, on a demandé
un dédit. Pas un sentimental, non ?
Non, 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 non. On a demandé un dédit. Alors, Los Angeles a répondu à la ville de Nancy. Un dédit de quoi ? Puisque ce concert Fitzgerald Bézi n'a pas été payé. Ah oui, d'accord, il n'a pas été payé parce qu'il n'a pas eu lieu. Hein. Et s'il n'a pas eu lieu, c'est bien de votre fête. S'il avait eu lieu, on y serait payé. Mais vous vous rendez compte du tort que vous nous faites ? Vous nous annulez un truc alors que on est obligé de rembourser. Le droit à l'image aussi, le tort médiatique qu'on a eu. On fait venir des critiques de Paris pour voir que Fitzgerald, elle n'est pas là. On a l'air de Charlot. Alors ils ont dit, ok, on va au procès. Alors, faites voir les contrats. Alors, le contrat, je l'avais signé à Nancy, en deux exemplaires. J'avais envoyé les deux exemplaires à Beverly Hills, qui était le domicile privé de Grant. Comme c'était convenu, d'ailleurs, il en a conservé un par devers lui, et il m'a renvoyé un autre. Donc, j'avais bien un contrat signé par lui. Et moi, sur mon exemplaire, j'avais fait à Nancy, hein. Et sur son exemplaire, qui avait été revu par un traducteur qui avait mis un cachet, traducteur assermenté et tout, il avait rajouté, comme lui, il avait signé à Los Angeles, fait à Los Angeles. Alors on arrive, et on dit, mais le lieu de création du contrat, c'est le lieu qui détermine la juridiction qui va se prononcer. Alors le contrat là, il est fait à Nancy ou il est fait à Los Angeles ? Alors moi, on dit, oh, il est fait à Nancy, c'est le tribunal de Nancy qui est compétent. Bon, on gagnait. Il dit, ah non, 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 Monsieur Grant, il a mis sa signature à Los Angeles. Sur son exemplaire, c'est marqué « Fait à Los Angeles ».
C'est pas un hasard.
Hein ? C'était pas un hasard. C'est, moi, je ne savais pas toutes ces finesses.
Oui, il le savait.
Oh là là. Alors, allez, mais ils veulent plaider. Qu'ils viennent au tribunal de Los Angeles. On aurait eu plus de frais. Hein ? Et tu sais ce que ça coûte, les avocats aux États-Unis et tout.
Très cher.
Alors, on va voir le maire. Il dit, écoutez, bon... que tout le monde ferme sa gueule, on laisse tomber, mais que surtout aucun journal n'écrive qu'on laisse tomber. Hein ? Faut que les gens puissent continuer de penser qu'on a fait valoir nos droits et tout ça. Mais en réalité, on a laissé tomber à Nancy, tu peux le dire, maintenant il y a prescription, c'est qu'il y a 30 ans. Hein. On a laissé tomber uniquement pour cette raison de procédure que on n'a pas pu obligé que ce soit plaidé à Nancy. On est toujours pratiquement sûr de gagner. Il y avait des précédents, il y avait une jurisprudence. Mais en Californie, le perdant avait tous les frais et on aurait été perdant.
Alors, une belle somme.
Eh bien oui, on aurait été perdant. Et c'est nous qui aurons eu encore une pénalité pour avoir introduit une instance irrespect envers le tribunal pour avoir présenté une instance qui n'a pas de sens ou un truc comme ça, tu vois. Alors en plus de ça, les frais d'avocat, les frais de déplacement d'un bonhomme pour aller expliquer notre cas à l'avocat parce qu'il serait pas venu ici, hein, bon. Et puis alors finalement les chances de gagner étant minimes, on a laissé tomber, c'était la solution sage. Mais j'y ai perdu beaucoup de ma crédibilité qui m'a fallu bien des années à faire revenir pour cette histoire de pissotière et puis de bouffe ridicule et de mauvaise compréhension de l'argot anglais par voilà. Donc voilà à quoi tiennent les choses. En réalité, la même année qui a été une année horrible, annus horribilis pour moi, Shep, persuadé dans son délire, c'est un musicien qui fumait pas mal, il vit toujours, mais je sais pas si c'est bon quoi. Il avait regardé où il s'était renseigné auprès d'un type qui croyait savoir où était Nancy. Et la même année, il faisait un festival de jazz à ces époques-là à Massy. Massy-Palaiseau, dans la banlieue parisienne. Alors, il a confondu les deux festivals. Puis quand il a vu le schedule là, qu'on avait envoyé, c'est-à-dire les dates, les horaires, tout le bordel, il y avait trop proche parce qu'il avait des changements et tout, il dit « Oh, mais comme il y a une boîte de nuit qui me demande pour jouer à Rome, mais j'ai largement le temps d'aller à Rome. » Alors, je lui envoie un billet, parce qu'il fallait payer son billet d'avion, il n'y a pas de sous. Ben, alors, je lui envoie un billet New York. Roissy n'existait pas, c'était Orly. Alors, il devait atterrir à Orly. Il prend le billet, il accuse réception, il me remercie, il revend le billet. Hein, il n'y avait pas le nom dessus, à un autre américain. Et avec le pognon, il se prend un billet pour aller à Rome. Et moi, j'envoie mon service transport, qui était dirigé par le Mougin, avec deux belles petites bagnoles, avec cette place et tout ça, pour ses mecs et tout. L'avion de New York arrive, pas de bonhomme. Téléphone, qu'est-ce qu'on fout? Attendez le suivant. Il a loupé, il viendra le suivant. Le suivant, il n'arrive pas. Le suivant, c'est à 1h du matin. Attendez encore. Moi, je téléphone, tout ça. Il était à Amherst, c'est dans le Massachusetts. Oh, mais il est bien parti. On l'a vu aller à l'aéroport. Il avait les valises, tout ça. Personne ne savait qu'il était allé à Rome. Avec tous les mecs, hein, avec le groupe. Et alors, on le voit arriver, minuit un quart, le jour du courant, enfin le lendemain, puisque minuit était passé, avec tous les mecs dans des taxis. Parce qu'ils avaient dit à Massy. Le chauffeur de taxi, c'est ce qu'il fait tout le temps. Ben, Massy, c'est la banlieue parisienne, hein, dans l'Essonne, je crois. Oui, une fois qu'il est à Massy-Palaiseau, il regarde sur les murs, il demande où c'est le festival. On lui dit, mais le festival, mais c'était le mois dernier. Oh merde, alors il regarde dans son contrat. Hein? Alors il dit au taxi. Je ne comprends pas, je sais pas ce qu'il dit. C'est pas ici, c'est à Nancy. Ah, le mec lui dit, mais attention, ça va faire cher. Ben, il dit non, allez à Nancy, le plus vite possible, ils vous paieront. Alors, les mecs, ils arrivent avec deux taxis, ils rentrent dans la pépinière parce qu'on avait un service les trucs ouverts. Ils arrivent alors que les gens partaient. Et la première chose qu'ils disent, il faut payer nos taxis. Je pense que j'étais en grande forme pour dire au trésorier paye les taxis hein, alors que les mecs ils m'avaient assassiné là. Ils m'avaient assassiné.
À quelle année?
Mais la même année, c'est Annus Horribilis.
Quelle année au point d'exploration?
Ah, c'était là, à l'année. Là c'est l'année. Alors après, il y en a eu d'autres qui étaient trop contents de dire le mec là, on va le foutre à la porte, il fait rien. Bon, là, c'est... Alors que j'en reste là, mais alors ils auraient été à ma place, je ne sais pas comment ils auraient fait. Hein, parce que quand tu attends que les mecs ils te téléphonent, je dis, bordel, 6 mecs tout noirs avec une batterie et des instruments, vous devez les voir. Bah, on les voit pas. Jean-Pierre Mougin, copain. Et alors le con là, tu crois qu'il m'aurait téléphoné de Rome en disant j'ai eu une proposition de passer à la télé, je pense que. Alors je lui aurais dit, surtout loupez pas votre avion de Rome, vous n'aurez pas le temps de répéter ni de faire la balance, mais on vous passera en troisième partie, l'orchestre prévu pour après vous, on ne fera pas passer avant. J'aurais trouvé un truc à la limite, faire patienter les gens, passer un court-métrage, n'importe quoi. Mais là, je ne savais rien. Et les mecs, ils disaient, « Oh, mais si le concert avait eu lieu à Massy, on était à l'heure. »
Ah oui,
absolument. Ah oui, si le concert avait eu lieu à Massy, ils auraient été à l'heure. Bon, ben voilà. Ben, voilà les souvenirs que je garde.
Ah ben oui, c'est assez beau en couleur.
Ben, c'est vrai, oui. Ça, c'était une année qui était dure pour moi. Mais il y a eu des moments magnifiques. Ce deuxième festival, la création en particulier... On avait réuni non seulement Magma, mais tous les groupes qui grouillaient autour de Magma. Non, mais il y avait Lockwood, il y avait. Mais il y avait les émules de Magma. Voilà.
Le concert avait été.
Il y avait Yannick Top.
Il l'a publié sur son label.
Il a fait Utopique Sporadique, ouais. Comment je sais plus quoi, orchestra, ouais, comme ça. Sporadique, ouais. C'était même pas sporadique, il a eu qu'une seule fois. C'était un plateau extraordinaire. Puis il y a eu le plateau, la suite qui était la suite pour cordes aussi, où j'avais mis en même temps tous les contrebassistes, tous les violoncellistes. Il n'y en a pas beaucoup des violoncellistes en jazz, mais j'en avais quand même quatre. Hein, il y avait Capon, puis il y avait les autres. Vanek, il y avait un Anglais qui jouait avec un groupe de rock aussi. Et puis le Namistowski, le Polonais, qui jouait avec une formation de free jazz polonais. Alors eux, ils étaient par contrat 2 jours plus tôt, répétition à Gentilly le matin. J'allais à 10h du matin pointer parce que les répétitions payées, bien évidemment. Mais le mec qui ne venait pas à la répète, il ne fallait pas qu'il vienne se faire payer la répète. Hein. Non, j'avais fait un boulot vachement précis et tout. Alors, je m'étais dit, j'avais l'expérience du premier, celui-là, il va être carré. J'en ai jamais eu un aussi merdique.